Comment aller vers un monde vivable ? Réponse de Cyril Dion, réalisateur du film Demain.
Demain est un film documentaire co-réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent dont le succès n'en finit pas de surprendre même l'équipe de tournage. Co-financé à un tiers de son budget par les internautes, le montant prévisionnel était atteint dans les 2 jours suivant l'appel à participation. Sous peine de disparaître, l'homme doit réinventer le monde. Éducation, économie, énergie ou agriculture, les cinéastes ont rencontré des personnes qui veulent agir sur le monde. Et 6 semaines après sa sortie, ce documentaire visionné par 400 000 spectateurs et dont la promotion entre guillemets se fait de bouche à oreille, obtient la meilleure note de tous les temps, 4,8 sur Allociné. Projeté par les Colibris 83 à Draguignan, le cinéma Chabran a dû ouvrir une deuxième salle pour accueillir 500 spectateurs et a refusé malgré tout une cinquantaine de malchanceux. Mais qu'est-ce qui fait le triomphe de ce film ? Cyril Dion répond aux questions de Véronique Herman. Je vous propose d'écouter un reportage disponible sur notre site Fréquence Mistral Castellane.
It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel they were facing a wall.
C'est très impressionnant en fait, parce que quand on était dans la salle de montage, on se demandait si ça allait vraiment intéresser les gens, si on n'allait pas avoir simplement des militants qui allaient venir. Et là, ça fait 6 semaines que le film est en salle. On a fait notre meilleure semaine, la 6e semaine, presque 400 000 entrées. Donc on voit bien en fait qu'on est en train d'élargir le cercle, que c'est pas simplement le petit noyau dur des gens que ce sujet-là intéresse qui viennent, qu'il y a eu énormément de bouche à oreille et que ça a fait venir d'autres personnes. Donc c'est encourageant parce qu'on se dit que il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine qui ont envie de changer la société, finalement.
Qu'est-ce que ça vous procure comme sentiment ?
Ça dépend des moments. Il y a des moments où je me sens un peu submergé, dépassé. Il y a des moments où ça me réjouit, où ça me met dans une forme d'excitation. Il y a des moments où ça me donne de l'espoir.
Et là, en ce moment, vous êtes très fatigué.
Là, je suis fatigué, ouais. Je suis un peu en bout de tournée. Mais en fait, j'ai fait... Ouais, c'est 61 projections dans 5 pays. J'ai aussi été en Belgique, en Suisse, en Suède, en Algérie, donc évidemment en France. Et tout ça a suivi en fait toute la fabrication du film qui a été éprouvante aussi. Parce qu'on a voyagé pendant 4 mois, on a monté pendant 9 mois, on a fait toute la post-production pendant 3 mois. Après moi j'ai écrit le livre du film qui fait à peu près 350 pages et que j'ai écrit en un mois. Parce que j'avais pris tellement de retard que j'avais plus le choix pour que ça puisse sortir au bon moment. J'ai à peine eu le temps de finir le livre du film, de prendre 10 jours de vacances, de tomber malade, tellement j'ai décompensé. Et après, on est parti en tournée, donc c'est vrai que là, je suis crevé.
Vous prenez la mesure de ce qui est en train de se passer ?
Ben, je sais pas, en fait. Parce que, comme je suis tout le temps dans cette espèce d'action perpétuelle, je sais pas si j'ai encore vraiment complètement réalisé. J'ai des amis qui me demandent ça, qui me disent « Mais tu te rends compte, ce projet dont tu me parles depuis 5 ans... où on se demandait si t'allais vraiment réussir à le faire. Non seulement tu l'as fait, mais ça marche hyper bien, et les retours des gens sont extraordinaires. Il y a un site qui s'appelle Allociné, un des plus fréquentés en tout cas, et on a la meilleure note de tous les temps, 4,8 sur 5 des spectateurs. Et alors évidemment, on se dit que c'est absurde, parce que il y a des gens qui se sont dit « Ah, le parrain, c'est pas génial. Mais demain, oui. » Donc il y a un endroit où ça tient pas cinématographiquement parlant, mais ça dit quelque chose, à mon avis, du besoin... et de la soif de tout un tas de gens d'avoir un horizon, d'avoir un projet politique, d'avoir un projet de vie, de construire du sens, de se retrouver, d'être ensemble. Et j'ai l'impression que le film apporte tout ça.
Plusieurs films dénoncent l'échec, les dangers, les abus de cette société et ne donnent pas vraiment de solutions. Pourquoi avoir choisi cette voie de proposer des solutions ?
Ben pour plusieurs raisons. D'une part parce que j'avais créé une ONG qui s'appelle Colibri avec Pierre Rabhi et quelques autres fin 2006. Et que ça fait des années que je me demande ce qui peut participer à mobiliser les gens. Puisque je vois bien qu'on n'arrête pas de dire que la situation est catastrophique. Et on le dit de plus en plus, y compris dans les films, comme vous le disiez. Et pour autant, ça ne déclenche pas le mouvement qui serait à la hauteur de la gravité de la situation.
Ça déclenche même des peurs.
Ça déclenche même des peurs. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que faire ça... c'est presque contre-productif. Parce que plus on a peur, plus on se raidit, plus on a tendance à se réfugier dans des systèmes de déni et de fuite. Alors que, à mon avis, aujourd'hui, on a besoin de susciter l'enthousiasme, la créativité, l'envie d'être ensemble, le désir même de construire un autre monde. Parce qu'on ne peut pas affronter les défis qui sont colossaux des années qui viennent sans avoir énormément d'énergie. Et pour avoir énormément d'énergie, il faut qu'on ait du désir et de l'enthousiasme. Donc, on a eu envie de faire un film qui puisse réveiller tout ça chez les gens. Et on est parti notamment d'une phrase de Gandhi que moi j'aime vraiment bien, qui dit « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule ». Donc, au lieu d'expliquer ou de faire expliquer la vie aux gens par des experts, on a essayé d'aller voir des gens qui font des choses formidables, qui le font non seulement pour eux, mais aussi pour participer à construire un autre monde. Et c'est, à mon avis, cette équation-là qui marche. C'est parce que ça les passionne, c'est parce qu'ils adorent faire ce qu'ils font, c'est parce que c'est très cohérent avec leur propre système de valeurs que ça peut marcher. Parce que si c'était simplement du militantisme un peu sacrificiel, au bout d'un moment, ils s'épuiseraient.
Et est-ce que les politiques s'intéressent à votre documentaire ?
Ben, on a été obligé de le montrer à des politiques puisque on nous avait fait la demande, on avait rencontré Philippe Martin quand il était ministre de l'écologie et il nous avait demandé si on serait d'accord pour projeter le film à la COP21. Donc une fois que le film a été terminé, il a fallu que Laurent Fabius vienne valider le film, enfin valider en tout cas le fait qu'il soit projeté à la COP21. Et nous on était de toute façon dans une dynamique de ne rien changer, hein. Et il est venu dans une projection tout à fait normale, qu'on a faite en plus avec des ONG, des amis au Max Linder à Paris, avec une partie de son cabinet. Et il nous a envoyé une lettre le lendemain en nous disant que c'était formidable, qu'il fallait montrer ça à tout le monde, ce qu'on n'a pas bien compris parce que le film est quand même pas tendre avec les politiques et avec la démocratie. Mais bon, en tout cas, ils ont eu l'intelligence de nous ouvrir l'espace de pouvoir le montrer donc le 2 décembre au Bourget. Ségolène Royal ensuite est venue le voir le 1er décembre en avant-première sur les Champs-Élysées. Et c'est ça qui est toujours troublant, c'est que quand on les entend, ils disent toujours que c'est formidable. C'est pareil quand on a fait un rendez-vous avec Ségolène Royal et qu'on lui disait quand même, on a vu plein de choses partout dans le monde qui sont vraiment géniales, il faudrait aller un peu plus vite en France. Sa seule réponse était de nous dire, oh bah m'en parlez pas, oui quelle inertie, oh, vraiment ça va beaucoup trop lentement. Et on se disait, mais oh, qui est ministre de l'écologie en fait? Ah oui c'est vous, ça me revient. Mais c'est fou, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui s'est passé avec Obama. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont dans une espèce d'impuissance. C'est pas forcément qu'ils comprennent pas, mais c'est que ils sont dans des systèmes de pensée et dans des systèmes économico-administrativo qui les paralysent. Donc, le film n'a pas du tout l'objectif de convaincre des chefs d'État de changer les choses. Au contraire, le but, c'est de convaincre chaque personne qui va le voir que si le monde a une chance de changer un jour, c'est parce que chacun d'entre nous va s'y mettre. Et que chacun d'entre nous va reprendre la responsabilité de la société et pas simplement attendre que des responsables politiques ou que des grandes entreprises, miraculeusement, pour je ne sais quelle raison, parce qu'ils ont reçu la grâce divine, changent du jour au lendemain.
Et en même temps, ça leur fait peur quand le peuple veut exprimer son pouvoir.
Mais évidemment que ça leur fait peur, puisque justement on est dans un système où il y a quelques personnes qui profitent allègrement du système tel qu'il est. Ils n'ont absolument pas envie que tout d'un coup les gens se mettent à donner leur avis et orientent les choses comme ils le veulent. Mais on s'en fiche. Enfin, je veux dire, dans une révolution, on n'a jamais vu que c'était les gens qui sont au pouvoir qui fassent la révolution. Pas Louis XVI qui a dit « Bon, coupez-moi la tête, envahissez les rues, prenez la Bastille et surtout instaurez une république parce que quand même ça va bien la monarchie. »
Est-ce que vous pensez que ce genre de révolution violente est indiqué ou est-ce qu'on peut faire autrement ?
Mais je n'espère que ça. Je pense que ça va être un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est à la fois un changement d'attitude de chacun au quotidien, dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de changer la façon dont on achète, ou il s'agit de changer tout ce qu'on fait dans la journée. On passe une bonne partie de notre vie à travailler. Il serait intéressant que chaque matin, on se lève pour faire quelque chose à la fois qui nous passionne, mais aussi qui participe à construire un monde dans lequel on aurait envie de vivre. Il y a tellement de personnes qui sont dans une activité un peu subie, qui font un travail parce qu'il faut bien travailler, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il faut bien gagner de l'argent pour payer son loyer à la fin du mois, et qui ne sont pas dans cette liberté qu'ensuite, parfois, ils retrouvent à la retraite. Et c'est amusant de voir le nombre de personnes qui, à la retraite, font plein de choses qui les passionnent, s'engagent dans l'associatif, font des choses un peu d'intérêt général, parce qu'enfin, ils ont le temps pour le faire, et la latitude, et la sécurité financière. À la fois, je pense qu'il y a une mini-révolution que chacun d'entre nous a besoin de faire, dans sa vie de tous les jours, donc à la fois dans ses habitudes et son mode de vie, et à la fois dans son activité professionnelle, et à la fois dans sa relation aux autres, etc. Mais qu'à un moment, il va certainement falloir qu'on rentre dans une forme de rapport de force, même si ça se passe de façon non violente, ce que vraiment je souhaite.
Ça s'est passé en Islande. Alors bien sûr, on entend souvent que c'est un petit pays.
Bien sûr que c'est un petit pays, mais ça s'est passé à d'autres endroits. Il y a des exemples en Inde où ils ont réussi à faire passer une loi qui permet aux paysans de ressemer et qui a pu avoir lieu parce que plus de 500 000 personnes se sont réunies et rassemblées. Et à un moment, on ne pourra pas faire l'économie de ça. Par exemple, sur la question du changement climatique, on ne peut pas espérer vraiment que les responsables politiques prennent des décisions très courageuses si les gens ne sont pas mobilisés. Un responsable politique, aujourd'hui, il regarde où son électorat le pousse.
Alors, c'est plus un secret pour personne que les Français ne donnent plus guère de crédit aux hommes politiques. Une partie vote aux extrêmes, l'autre tremble. On entend « tu votes à droite, tu votes à gauche », c'est la même chose. Pensez-vous qu'il y a encore des politiques au sens noble du terme et vivons-nous en démocratie ?
Non mais malgré tout, il y a plein d'élus qui font des choses formidables et on en a interviewé dans le film, que ce soit le maire de Copenhague ou l'équipe de la mairie de San Francisco. Pour autant, je pense que le système ne marche plus. Et quand on dit que la démocratie est un peu en train de mourir dans nos pays, c'est vraiment la façon dont c'est construit. Là, on cite dans le film une étude de l'université de Princeton qui a étudié des milliers de décisions prises par le gouvernement américain et qui a regardé si ces décisions-là allaient plutôt dans le sens des grandes entreprises ou plutôt dans le sens des aspirations de la population. Et à 80% des cas, ça allait dans le sens des entreprises. Ce qui fait dire à l'université de Princeton qu'on est plutôt dans une forme d'oligarchie où quelques grandes entreprises ont le pouvoir d'orienter les politiques publiques plutôt que dans une démocratie où c'est la population qui élit des représentants qui eux-mêmes vont dans le sens de l'intérêt général. Et ça, c'est vrai que c'est de plus en plus manifeste un peu partout, y compris en France. Et ça, c'est à la fois soluble par des mesures structurelles, mais ça demande aussi que les gens s'impliquent. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui prennent le pouvoir, c'est parce qu'il y en a d'autres qui leur laissent le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a terminé le film avec la question de l'éducation. C'est que être un être humain libre, responsable, qui ne délègue pas son pouvoir mais qui le prend pleinement, ça s'apprend depuis tout petit. Et aujourd'hui, on a plutôt une école qui a tendance à former des générations de citoyens un peu soumis et qui sont prêts à se conformer à un modèle, à respecter des consignes. Et aujourd'hui, il faut sortir de ça.
Oui, par exemple, la ministre de l'Éducation a passé récemment un énorme marché avec Microsoft dont la finalité n'est pas vraiment claire.
Oui, et personne ne trouve rien à redire à ça. Ou alors, si les gens trouvent quelque chose à redire, ils ne se manifestent pas. Donc tant que les gens ne se manifestent pas, les responsables continuent. C'est assez logique. Tous les êtres humains sont comme ça. C'est comme un enfant, je veux dire. Un enfant fait ce qu'on pourrait appeler une bêtise. Tant que vous lui dites rien, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Bon, et ben, les responsables politiques font la même chose.
On demande à des philosophes comme Pierre Rabhi ou Edgar Morin quelle est la solution, ils répondent « unissez-vous ».
Oui, mais bien sûr, évidemment, mais comment ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Mais c'est exactement l'objet du film hein, et du livre qu'on a fait. C'était d'essayer de rassembler les pièces de puzzle et de montrer qu'une fois qu'on a mis ces pièces ensemble, c'est un vrai nouveau projet de société qui se dessine. Et qu'au-delà de ça, on est obligé d'assembler les pièces du puzzle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper des sujets indépendamment les uns des autres parce que tout est lié. Et qu'aujourd'hui, par exemple, pour sortir des énergies fossiles, on a besoin d'avoir une vraie politique économique différente. Puisque la plupart du temps, on n'investit pas dans les énergies renouvelables parce que c'est soi-disant trop cher et que les États sont très endettés, les collectivités aussi, qu'elles mènent des politiques d'austérité. Donc, dans le film, on s'est posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est aussi endetté ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se battre pour trouver de l'argent alors que c'est des sujets qui sont aussi importants et qu'il en va de l'avenir de l'humanité ? Donc il y a un moment, se demander si c'est rentable ou pas, c'est peut-être pas vraiment la question la plus importante. On est tous décalés. On est absolument tous décalés. On en parlait avec Hubert Reeves qui disait « c'est une espèce de veillée d'armes hein, », c'est-à-dire qu'on est à l'aube de situations vraiment extrêmement grave. Et on n'en a absolument pas conscience. Et la façon dont on vit aujourd'hui est complètement en décalage avec la gravité de la situation. Donc on peut dire vraiment qu'on est tous à côté de la plaque. Parce que tant qu'on se dit que c'est juste les responsables politiques qui le sont, d'une certaine façon on perd du temps parce qu'on remet encore la responsabilité à l'extérieur de nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment est-ce qu'on va réintégrer la responsabilité, et en réintégrant la responsabilité, on va réintégrer le pouvoir et on va s'y mettre. Parce qu'on se rendra bien compte que personne ne va venir le faire à notre place. C'est une des scientifiques là, dans le film américaine qui disait « Tout le monde attend que quelqu'un agisse à sa place. » Mais ça ne marche pas comme ça.
Alors nous sommes encore en période de vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez à la France, voire à l'humanité, pour demain, pour l'avenir ?
Je souhaite qu'un maximum de personnes trouvent ce qui les passionne le plus dans la vie, commencent à le faire et trouvent leur place dans cette société. Parce que pour moi, c'est une des clés. Si chacun trouve sa juste place et se met à faire des choses pour lesquelles il a de la passion et de l'enthousiasme, on peut imaginer que on va construire un monde qui marche moins sur la tête. Et que la plupart du temps, quand quelqu'un fait ce qu'il aime, c'est quelque chose de généreux. C'est quelque chose qui va apporter aux autres. Il y a tellement de problèmes à résoudre qu'il faudrait tout réinventer. Et inventer un autre monde, c'est extrêmement palpitant, c'est excitant de se dire on peut tout changer, on peut tout repenser. Et on a besoin de nouveaux agriculteurs, et on a besoin de nouveaux enseignants, et on a besoin de nouvelles façons de faire de l'économie, et on a besoin de nouvelles façons de, je sais pas moi, de faire des vêtements, on a besoin de trouver des nouvelles formules pour faire des cosmétiques ou des produits d'entretien qui vont se dégrader complètement dans la nature. On a besoin de trouver des activités économiques qui vont régénérer les écosystèmes. Mais c'est génial, enfin, on a besoin d'avoir un horizon, de trouver du sens. Donc moi je souhaite qu'un maximum de gens s'engouffrent là-dedans. Et soit passionné et galvanisé par l'idée qu'on peut faire des choses totalement passionnantes et que c'est ça qui peut nous permettre de construire un monde vivable.